Vous êtes avec SBS French.
Aujourd'hui, dans la rétrospective, on fait un bond de 37 ans en arrière et on remonte au 11 mai 1987, lorsque le procès de Klaus Barbie s'ouvrait. Valentine Sabourot nous emmène sur les traces de l'ancien chef de la Gestapo, premier homme à avoir été poursuivi pour crime contre l'humanité. Il a été l'objet d'un procès exceptionnel à bien des égards. Récit avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et les mots du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, en ouverture.
Je ne crois pas à la vengeance, mais je crois à la justice. Je crois à la justice dans le cadre de la mémoire. Une justice sans mémoire n'est pas une justice.
C'est l'histoire d'une journée particulière, ou plutôt d'une journée historique. Le 11 mai 1987 s'ouvre en effet à Lyon le procès hors norme de Klaus Barbie, dit le boucher de Lyon. Poursuivi pour crime contre l'humanité, l'ancien nazi est accueilli dans un tribunal spécialement aménagé pour pouvoir accueillir une audience pléthorique qui inclut ce jour-là 800 journalistes du monde entier. Le prévenu doit y faire face à 113 associations qui se sont portées civiles, la justice étant volontairement placée entre les mains d'un jury populaire, assisté de magistrats ordinaires. Né en 1913 près de Bonn, Nikolaus Barbie adhère à 20 ans aux jeunesses hitlériennes. À 22, il rejoint la SS avant de travailler dans les services de sécurité puis de renseignement nazi. Formé à l'interrogatoire, il va exceller dans ce domaine grâce à la guerre qui met à profit ses sinistres talents. En 1940, il est muté aux Pays-Bas avant de devenir chef de la Gestapo en France.
Ancien chef de la Gestapo de Lyon, il a ordonné la déportation vers les camps de la mort de 115 000 Français, des trains entiers de Juifs et de résistants. En juin 1943, avec la complicité de certains Français, il est vrai, il a arrêté à Caluire Jean Moulin, le président du Conseil national de la Résistance. Jean Moulin, torturé, ne révélera rien avant de mourir dans le wagon qui le conduisait à la gare de triage de Drancy.
1944, il fuit Lyon pour l'Allemagne où il continue de se battre. Après la guerre, bien qu'identifié par les Américains, il n'est pas capturé, mais recruté par le Counter-Intelligence Corps qui traque les communistes. Il deviendra alors informateur avant d'être exfiltré vers la Bolivie en 1951. Il y prospère en toute tranquillité sous le nom d'Altman avant d'être localisé en 1971 par Serge et Beat Klarsfeld. Il faudra ensuite attendre le 5 février 1983 pour qu'il soit extradé. Cette dernière réagit à l'époque sur le procès à venir.
Dans les interviews qu'il avait données à la télévision, à la radio, aux journaux, il s'est félicité d'être toujours qu'il s'est tenu Hitler, il n'a pas changé d'idée. Je crois que c'est une bonne chose que cet homme-là soit traduit devant la justice.
Klaus Barbie, cependant, a déjà été condamné en France. C'était à la peine de mort par contumace en 1952 et 1953, mais il y a prescription. C'est donc pour crime contre l'humanité qu'il sera poursuivi, sachant que 3 faits sont retenus contre lui. La rafle de l'Union Générale des Israélites de France, UGIF, rue Sainte-Catherine à Lyon le 9 février 1943, la rafle des enfants d'Izieux le 6 avril 1944 et le dernier convoi de déportation parti de Perrache le 11 août 1944, composé de 650 personnes. À la demande des parties civiles, s'ajoutera ensuite un 4e chef d'accusation, acte d'arrestation, torture et déportation de Juifs ou de résistants pris isolément. Mais alors que la justice se prépare, une question se pose, celle de la mémoire et des archives. Le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, s'en inquiète.
Quel dommage que l'on n'ait pas la voix de Léon Blum au procès Pétain. Quel dommage qu'on n'entende pas Laval, au début de son procès, se défendant lui-même. Quel dommage qu'on n'ait pas conservé l'enregistrement du colonel Argout au moment du procès des barricades. Enfin, les archives judiciaires sont vides parce que l'on ne s'est pas assez soucié de voir comment l'on pouvait réussir à conserver des documents sonores ou visuels suffisants.
En 1985, une nouvelle loi autorise donc l'entrée des caméras dans le prétoire, mais dans des conditions d'enregistrement strictes, sans diffusion possible avant 20 ans minimum, et seulement pour les procès à valeur historique. pour la première fois ce 11 mai 1987, 5 d'entre elles seront présentes pour filmer l'intégralité des débats. Le jour de l'ouverture du procès arrive enfin. À l'extérieur, la communauté juive de Lyon témoigne.
Je n'ai pas l'impression qu'il a le moindre remords, le moindre repentir vis-à-vis des crimes qu'il a pu commettre.
On ne peut pas s'empêcher d'être content, satisfait que cet homme-là se trouve aujourd'hui dans la boxe accusée à Lyon.
À l'intérieur, la salle d'assises, exceptionnellement réinstallée dans la salle des pas perdus, accueille les protagonistes. Klaus Barbie en costume sombre, avec trois défenseurs dont Jacques Vergès, le président André Cerdini, le procureur général Pierre Truche, les parties civiles et leurs 39 avocats. À 13h04, le coup d'envoi est donné. C'est le début d'un procès historique et éprouvant. Il durera jusqu'au 4 juillet 1987, date à laquelle Klaus Barbie est reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité, pour lesquels il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.